Bonjour mes amis, et oui c'est à ce moment-là que je rentre juste pendant le... Maintenant vous devez commencer à avoir l'habitude, c'est Clotilde Sey qui vous accompagne jusqu'à 11h45. Bien sûr je ne suis pas seule puisque c'est le magazine Les Voix de Service qui commence. Je vais pouvoir accueillir tout au long de cette émission des collaborateurs qui viendront, comme je le fais moi-même, partager avec vous des articles, des blogs, des dossiers, en tout cas tout ce qui s'écrit sur Montréal et en région et à l'international. Vous serez au courant de tout. Bien sûr, en cette première demi-heure, je vais me sentir un petit peu seule, sauf lorsque Christiane Campagna et Mathieu Tessier vont venir se joindre à moi. Christiane pour la nouvelle virale, Mathieu pour les fêtes et anniversaires que nous évoque cette journée, ce 6 octobre 2015. Et puis, je vais éplucher pour vous deux journaux dans la première demi-heure. Le Journal de Montréal pour commencer et Le Devoir par la suite. Alors mon petit Mathieu, 6 octobre 2015, ça nous rappelle quoi comme souvenir?
La naissance du commerçant canadien James McGill, le fondateur de l'Université McGill de Montréal.
Ah oui, donc j'avais...
L'Université 1821, non, ouais. Je ne pense pas que vous étiez né.
Non, c'est pas ça, mais j'avais lu son histoire à un moment donné, c'est complètement passionnant. Il venait de
Glasgow.
D'Écosse.
Exact. Il est né à Glasgow.
Est-ce que j'ai le droit de revenir en deuxième
vous
semaine?
Vous avez le droit de venir le... Oui, effectivement.
C'est ça. Ensuite...
Excusez-moi, vous avez Le Corbusier aussi qui est né un 6 octobre en 1887. Nous ont quitté un 6 octobre le poète québécois Gilles Hainaut et l'actrice Betty Davis. Et il faut noter aussi que c'est un 6 octobre en 1927 qu'on a eu la première diffusion du premier film parlant, The Jazz Singer.
Ah bah oui,
en 1927, le chanteur de jazz. À New York, exact.
Ouais.
Je te sais rassuré depuis que, à Londres, le roi Henri VI fut libéré de la Tour de Londres en 1470.
Phew. OK, donc ça va, c'est réglé,
ça,
on n'en parle plus.
On peut passer à autre chose.
Et
c'est la journée mondiale de l'habitat et des proches aidants. En fait, c'est la journée nationale...
Des prochaines dents.
Voilà.
Oui. Non, mais...
la journée nationale... En France, des aidants.
Ah oui.
Voilà.
Ben oui,
ce que nous appelons les gens... les proches aidants.
Ah oui, les proches aidants. Et Dieu sait si ces gens-là ont bien besoin qu'on pense à eux et qu'on les soutienne
tout à
surtout.
Fait, tout à
Merci
fait.
Beaucoup,
Ça
Mathieu.
Me fait plaisir.
Alors, à la une du Journal de Montréal ce matin, harcèlement sexuel au travail, on nous annonce un cours de savoir-vivre pour les mononques. Figurez-vous. Oui, absolument. On nous dit que Cassian est finalement rentré en désintox. Il a été suspendu par le CH. Et on nous parle d'un cône oublié déjà depuis plus de 2 ans. C'est un cône qui est au milieu d'une rue. Alors, on voit le... Il y a d'ailleurs deux photos fort intéressantes. Il y a le gazon autour du cône oublié qui est tout vert. Et en ce moment, il y a le gazon qui est tout foin. Et c'est le même cône. Mais l'herbe a quelque peu évolué.
On va commencer à donner des fruits bientôt.
Oui, c'est cela. Et le partenariat transpacifique, monsieur, évidemment, il en sera beaucoup question à cette émission-là, surtout lorsque nous allons aller en région, parce qu'il y a des gens qui se frottent les mains, mais il y en a d'autres, comme les agriculteurs et les producteurs de lait, qui, eux, se font du souci. Le gros titre à la une du Journal de Montréal, et je vais revenir là-dessus dans quelques secondes, c'est une femme... qui porte un niqab et qui a accueilli le journal chez elle et qui dit « Mais non, je ne suis absolument pas votre ennemi. » Je vais vous lire quelques extraits de cela. Alors, cette femme-là qui dit qu'elle a été injuriée très régulièrement parce qu'elle porte le niqab, une fois qu'on l'a rencontrée en privé, écrit Sarah Maud Lefebvre du Journal de Montréal, la dame a dit s'inquiéter de l'importance du sujet. Elle-même, elle le dit dans la campagne électorale. Et puis elle dit « Je suis toujours étonnée lorsque des jeunes m'insultent et ils sont pourtant instruits et devraient être un peu plus compréhensif. Donc cette Montréalaise qui porte le niqab implore la société québécoise de cesser de considérer les femmes voilées comme des ennemis, dénonçant du même coup l'intimidation et la violence dont elle est victime dans les rues de la métropole. Alors on lui a demandé en rafale quelques questions, je vous en fais part. Pourquoi portez-vous le niqab ? Elle a répondu « Je le porte parce que ça fait partie de ma foi, de mes croyances personnelles. C'est important pour moi de ne me montrer qu'à mon mari et c'est mon choix », dit cette femme. « Vous impose-t-on le port du niqab ?» Elle répond « Non ». Et toutes les femmes que je connais qui le portent le font par choix personnel. Si mon mari me maltraitait et m'obligeait à le faire, ce serait facile de le dénoncer. On est au Canada. « Vous considérez-vous comme une femme libre et émancipée ?» Oui, vraiment. » répond-elle. Lorsque j'étais au Pakistan, j'ai pu faire des études de médecine. Mon père, qui était très religieux, m'a encouragée et permis de voyager partout à travers le monde. Je me concentre présentement sur ma famille, mais j'ai bien l'intention d'aller chercher les équivalences nécessaires et de pratiquer bientôt comme médecin ici. Pourquoi est-ce important pour vous de continuer à porter le niqab malgré les agressions que vous avez vécues, lui demande-t-on. Le Canada est censé être le pays le plus libre au monde, répond-elle. Je suis canadienne et je suis fière de l'être. Je crois que j'ai le droit de vivre avec mes convictions religieuses tout en respectant les lois. Vous sentez-vous rejetée par la société par moment ? Elle répond, le débat entourant le projet de charte des valeurs québécoises a été un moment très difficile à vivre. Nous étions plusieurs à nous demander si on devrait quitter le Québec, mais c'est mon pays, ma maison ici. J'aimerais juste que les frères et les sœurs qui habitent dans la même maison que moi me parlent et ne m'ignorent pas. Monsieur Martineau, en page 6, ce matin, nous parle de trafic d'humains. Il écrit ceci. J'ai lu un article qui m'a glacé le sang la semaine dernière dans Le Figaro. Saviez-vous que le trafic de migrants rapporte plus d'argent que le trafic d'armes et le trafic de drogue ? C'est un commerce tellement lucratif que les bandes de criminels qui se spécialisent dans le trafic humain se font la guerre afin d'augmenter leur part de marché. Avant, le trafic de personnes était un marché peu rentable dirigé par des amateurs qui utilisaient des méthodes quasi artisanales. Mais aujourd'hui, c'est une industrie extrêmement lucrative, gérée par des bandes criminelles hyper puissantes. La demande est telle, nous dit Martineau après la lecture qu'il en a faite dans Le Figaro, la demande est telle que les passeurs manquent d'embarcations pour envoyer les migrants en Europe. Alors ils ont recours à des pirates armés de Kalachnikov qui volent des bateaux. Ces trafiquants ne font pas la différence entre les vrais et les faux réfugiés. Ils embarquent tout le monde. T'as le fric pour payer ton voyage ? Eh bien, on va te mettre sur un bateau. Ce sont des bandits qui se spécialisent dans le trafic d'armes et de drogue qui ont décidé de diversifier leurs activités en se lançant aussi dans le trafic d'humains. Et devinez quoi ? Eh bien, avec l'argent que ça rapporte, ce manège n'est pas prêt de s'arrêter. La chronique de José Legault, aujourd'hui, toujours dans le journal, puisque j'ai commencé avec ce quotidien montréalais, ça s'intitule « Les sacrifiés ». Selon François Blais, dit-elle, d'ici l'atteinte du déficit zéro, le gouvernement serait très maladroit d'investir plus en éducation, y compris pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Bref, pour les plus fragiles, la réussite peut attendre. En même temps qu'elle décroche les mâchoires, cette déclaration ahurissante du ministre de l'Éducation illustre à merveille une observation faite en 2013 par l'ex-premier ministre Jacques Parizeau. « Du moment où le déficit zéro vire à l'obsession, disait-il, vous cessez de réfléchir. » Le nez collé sur le court terme, cette obsession hypothèque en effet l'avenir. Ce faisant, on dénature la mission première de l'école publique, laquelle repose non seulement sur la transmission des connaissances, mais sur la mobilité sociale accrue qui doit en résulter. Or, pour les élèves dits en difficulté ou venant de milieux moins nantis, les contre-coups des compressions sont concrets et immédiats. Le temps court toujours plus vite pour eux. Dans une chronique récente, Francis Vaille avançait que le Québec a beaucoup investi dans l'éducation depuis 10 ans. Les problèmes concrets sur le terrain ne sont pourtant pas une vue de l'esprit, dit José Legault. Cet argent supplémentaire a-t-il vraiment bénéficié aux plus vulnérables dans nos écoles publiques, dont les élèves nécessitaient un suivi particulier ? Pendant que le ministre jette le blâme ici et là, on en oublie le véritable maître de l'ensemble de l'œuvre, le ministère de l'Éducation lui-même et les premiers ministres qui l'ont laissé sévir au fil des ans. Son rôle est de protéger M. Blais, le ministre Blais, donc son rôle est de protéger et d'améliorer le système public pour tous ceux qu'il fréquente, malheureusement. L'ancien doyen préfère se déguiser en clone de Martin Coiteux, l'omnipuissant président du Conseil du Trésor. Et là, je suis extrêmement surprise aussi de lire cela parce que j'ai écouté hier, oui, en retard, tout le monde en parle, généralement je l'enregistre, et j'ai écouté surtout d'ailleurs pour entendre Normand Baillargeon, dont je trouve les propos toujours fort intelligents et fort à propos, et qui disait à un moment donné, je suis très très surpris par les propos du ministre de l'Éducation parce que lui comme moi avons reçu la même éducation qui est une éducation de philosophe. Et il disait, Baillargeon, que quand il a su que François Blais allait devenir ministre de l'Éducation, ça l'a rassuré. Il s'est dit, ah, un philosophe, là, ça va faire avancer les choses. Voilà quelqu'un qui va absolument vouloir qu'on éduque nos enfants. Et il se passe exactement le contraire. C'est fou, hein? D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais il y avait deux professeurs avec lui qui se dévouent corps et âme aux élèves. Et il y en a un qui nous a dit plusieurs fois qu'il avait 20 élèves dans la classe. J'ai dit « Oups, ça la fout mal ». Non, non, c'est une liaison, il n'y a pas de S à 20 dans ce cas-là. Mais tous les petits proutes qu'il a dans sa classe vont tous continuer à dire, quand ils vont avoir 20 ans, ils vont chanter « On n'a pas tous les jours 20 ans ». Bon, bref. La caricature de M. Baudet, ce matin dans le Journal de Montréal, nous présente la nouvelle adjointe de M. Marcel Lobu. Et il nous présente une femme qui porte la burqa. Vive le débat. Monsieur Boccoté, puis d'ailleurs Cassivi fait la même chose dans la presse ce matin. Ils ont vraiment les mêmes goûts à la télévision. Le même soir que tout le monde en parle, qui a été d'une sagesse, mais d'une sagesse quasiment plate, dimanche dernier, ben, un petit peu plus tard, il y avait On n'est pas couché, qui est l'émission française où ça se crêpe le chignon. Et d'ailleurs, l'émission est faite pour ça. Il rappelle qu'il y a deux ou trois personnes qui, autour de Laurent Ruquier, sont là pour... excités, c'est ça, pour faire mal à leurs invités. Et là, c'était Alain Finkielkraut, je pense, l'intellectuel, qui était là sur le plateau. Et il dit « Oh, en France, philosophes et écrivains font la une des hebdomadaires, il y a de quoi rêver. Nous partons de loin chez nous. C'est comme si les idées étaient de trop dans la vie publique et devaient vivoter dans les marges. À la radio, on ne trouve aucune émission sérieusement consacrée au monde des livres. Wow, wow, wow ! Un instant, Monsieur Boccoté. Il va falloir qu'on lui écrive. Il y a une émission qui s'appelle « Des livres plein les oreilles ». Voyons. On s'imagine qu'un livre est un produit culturel aussi exotique qu'ennuyant. On laissera les initiés en parler entre eux, mais on ne croira pas qu'il peut éclairer le commun des mortels. Il faut vraiment qu'on lui écrive.
Oh, faut l'inviter. Faut l'inviter.
Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez, Christiane?
Ça serait l'idée, on pourrait l'inviter.
Oh, mais c'est épouvantable. Donc, en fait, ce que dit ce truc-là, c'est que finalement, en France, oui, peut-être qu'il se crêpe le chignon, mais au moins, il y a des vrais débats. Puis, il y a des vrais intellectuels qui s'expriment. Puis, il y a des pas intellectuels qui les rabrouent. Mais ça se crêpe le chignon, mais au moins, on se parle. Alors que finalement, ici, c'est très calme. Même les débats politiques. J'aurais tellement aimé voir messieurs Harper et Mulcair, à un moment donné, nous montrer leur vrai... Non, mais leur vraie personnalité, ce sont des gens qui sont colériques. Et là, écoute, on a l'impression, les pauvres petits choux, qu'ils ont un porte-manteau dans le cou, et puis... Oh. Bon, enfin bon, allez. On va accueillir dans quelques secondes mon ami Christiane Campagna avec sa nouvelle virale du jour, ben, ou sa nouvelle du jour, d'ailleurs. Une fois n'est pas coutume, c'est pas viral, hein, ce matin.
Ça l'a été hier après-midi. Et c'est drôle parce que vous disiez tout à l'heure, Mathieu Boccoté et Marc Cassifi, d'accord? Je pense que ça arrive pas très souvent.
Non.
Et ce que j'ai beaucoup vu passer hier, c'est des gens qui disent, une fois n'est pas coutume, mais bravo, parce que c'est pas tout le monde qui est fan de Sophie Durocher, elle est sujet à controverse. Et plein de gens qui, d'habitude, ne sont pas fans, ils disaient, notez la date, je suis d'accord avec Sophie Durocher.
Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit? Qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a fait une réponse à Régent Tremblay, qui a pondu une chronique de défense de son ami Marcel Aubu, en disant, c'est sa personnalité, blablabla. D'ailleurs, il va en avoir des extraits. Je vais vous lire carrément ce matin des extraits de cette lettre à Régent Tremblay de Sophie Durocher, dans laquelle elle cite certains extraits de cette chronique de Régent Tremblay. Dans ta chronique de ce matin, tu nous parles des différents perdants de l'affaire Aubu. Selon moi, les seuls vrais perdants sont des perdantes. Les femmes qui, depuis des dizaines d'années, ont eu à subir les remarques et les comportements déplacés de M. Aubu. Régent, dans ta chronique, tu dis « Marcel Aubu se retrouve emporté par un tsunami », votre mot préféré, Clotilde, médiatique, qui l'a forcé à démissionner de son poste de président du Comité olympique canadien et qui va l'obliger avec sa famille à vivre un enfer dans l'opinion publique pendant des mois. Ce n'est pas le tsunami médiatique qui l'a forcé à démissionner, ce n'est pas le tsunami médiatique qui va faire vivre l'enfer à sa famille, ce sont ses agissements.
Ah oui.
Quand on agit en toute impunité pendant des années, le retour du balancier fait mal quand il nous frappe en plein visage. Ton ami n'a qu'une personne à blâmer et c'est lui. C'est the oldest trick in the book, blâmer les médias. Ne blâme pas le messager, Régent, les médias ne font que leur travail. Tu écris, j'espère que toutes les femmes concernées se sont mieux senties en lisant ces excuses publiées dans les journaux. Tout le monde a droit au respect. Justement, les femmes, qu'elles soient secrétaires, journalistes comme Karine Gagnon ou grande avocate, ont droit au respect et non pas à se faire donner des becs mouillés par mon oncle Marcel, voir mon oncle Robert en boxeur ou se faire caresser les cuisses par mon oncle Gérard. Elle écrit plus loin, « Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir la peur au ventre à l'idée de croiser un collègue ou un patron dans le corridor ou dans un bureau fermé. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec l'humiliation, la honte d'être réduite à un objet sexuel. » Tu penses que les remarques ou les blagues de ton ami ne visaient pas à blesser, mais elles blessent, pourtant et plus profondément que tu ne peux l'imaginer. Ce que les femmes ont dénoncé, c'est tolérance zéro, mon cher Régent, ce que les femmes ont dit à Marcel Aubu. On ne veut plus jamais se faire dire « Il est comme ça, Marcel, c'est un bon gars, il ne voulait pas faire de mal.
Ah » oui.
Regardez comme il a accompli des grandes choses. Ce n'est pas une excuse, ras-le-bol de l'omerta du sexe qui fait qu'on se tait quand un grand patron fait un commentaire sur les seins d'une secrétaire. Tu écris « Sa nature et son exubérance l'ont amené à une familiarité, à une façon d'aborder les femmes qui ont déplu à plusieurs. Tu as fait une question de goût. Certains aiment, d'autres pas. Mais tu aurais dû écrire que ses comportements ont déplu à tous. Personne ne devrait accepter ou tolérer ce genre d'agissement. C'est ça qu'un vrai chum dit à son ami. »
Oui, ben effectivement. Alors, je me rallie. Mais il lui arrive, moi qui la lis quand même pas toutes les semaines, mais assez régulièrement à cette émission, il lui arrive comme ça, c'est vrai, Sophie, d'avoir des moments où un petit peu comme son mari, parce que de plus en plus, elle prend les mêmes attitudes, les mêmes mots, les mêmes... Mais il y a des fois où, ping, tu sais, ça... Ouais.
D'ailleurs, il la recevait à son émission hier pour qu'elle parle de ce billet.
Oh, c'est mignon!
Et il y a José Legault qui a aussi écrit une chronique pour faire suite à cette chronique, pour enchérir un peu, faire suite à cette chronique de Sophie Durocher.
Ah, ben oui, est-ce que c'est ce que... Attendez, là, j'ai un blanc
de
mémoire.
Je ne sais pas, parce qu'il y a des billets qui sont publiés seulement en ligne.
C'est
pour ça que je vous ai lu ce billet ce matin, parce qu'il était seulement en ligne. Je trouvais que ça valait la peine.
C'est la raison pour laquelle je ne vous l'ai pas lu hier. Merci beaucoup, Christiane Campagna. On s'en va dans le devoir. Alors aujourd'hui, à la une, très rapidement, du Devoir, Henning Mankell, l'auteur de Polar décédé. C'était la chronique d'une mort annoncée. On le savait, atteint d'un cancer depuis déjà quelques années. L'entente sur le traité de libre-échange transpacifique, crainte et fébrilité pour cet accord historique. Bien sûr, il en sera question à cette émission. Surtout d'ailleurs lorsque je vais aborder le volet régional, parce que c'est là qu'on retrouve le plus, entre autres, de producteurs de lait qui sont inquiets. Et puis, à la rescousse du piéton québécois, figurez-vous qu'un organisme voué à ce grand oublié de la sécurité routière voit le jour, nous dit Sarah R. Champagne. Le piéton est tout le monde et personne à la fois, écrit-elle, une figure universelle qui n'avait pourtant pas de voix pour la représenter. Eh bien, Piéton Québec est lancé aujourd'hui pour remettre les déplacements à pied au cœur des préoccupations de sécurité et d'aménagement. Selon une enquête origine-destination du ministère des Transports, figurez-vous que 41% des adultes n'utilisent jamais la marche comme mode de déplacement. Les nuées d'enfants enfouis sous leur sac à dos seraient aussi de plus en plus rares, puisque seulement 30% d'entre eux se rendent à l'école à pied contre 80% en 1971. Je lisais même ce matin qu'on avait calculé qu'énormément de gens, quand ils ont une course à faire en dedans de 1 km, prennent la voiture. Le piéton mérite d'être remis dans la circulation, clament ceux qui sont à l'origine de l'initiative. On devient piéton sans vraiment s'en rendre compte, constate Jeanne Robin, porte-parole de ce tout nouvel organisme. Il y a donc peu de sentiment de communauté et par ricochet de capacité d'indignation associée au fait de circuler à pied. Piéton Québec veut être en mesure de dire « c'est trop » ou « ce serait mieux comme ceci » et de se faire entendre. Alors, ils vont donc proposer quelques règlements notamment, pour que notre vie de piéton se déroule de façon un petit peu plus sécuritaire. Savez-vous que, par exemple, sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal, c'est une moyenne, hein, mais il y a en moyenne un piéton mort par semaine. Oui, monsieur, Mathieu Tessier, là, je le vois me faire des yeux grands comme ça, le menton. Oui, j'ai lu ça ce matin même dans un autre papier dans le journal. Oui, il y a en moyenne un mort par semaine sur la rue Sainte-Catherine, frappé donc par une auto ou par piétonnier. Voilà. On est tous inquiets par ce déversement qu'il va y avoir dans le fleuve, mais Montréal garde le cap malgré la controverse. Alors que l'autorisation d'Environnement Canada se fait toujours attendre, le maire de Nicodère maintient le cap concernant le déversement programmé de ses eaux usées à la mi-octobre, même si cette affaire est en train de devenir un boulet pour son administration. Le maire avait convoqué les médias lundi pour répondre aux critiques, mais la décision de son administration demeure la même pendant 7 jours à compter du 18 octobre. Montréal laissera 8 milliards de litres d'eau d'égout se jeter dans le fleuve afin de procéder à des travaux dans l'intercepteur sud-est qui dessert le tiers de l'île de Montréal. Il y a des gens qui se posent des questions, qui sont choqués. Et qui se disent que ça n'a pas de bon sens de jeter 8 milliards de litres d'eau usée, dit le maire Coderre. Moi aussi, ça ne faisait pas mon affaire. C'est pourquoi j'ai demandé une pause, pour qu'on regarde l'ensemble des options. Je réitère qu'on n'avait pas le choix. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Le déversement a reçu le feu vert du ministère québécois de l'Environnement, mais celui d'Environnement Canada tarde à venir. Les assurances de l'administration ne calment pas les critiques. Le maire a rappelé qu'en 2003 et en 2007, Montréal avait procédé à des déversements similaires. La première fois pour raccorder les industries qui déversaient leurs eaux usées directement dans le fleuve et la seconde pour des travaux d'entretien dans l'intercepteur. Mais les assurances, encore une fois, de l'administration Coderre ne calment pas les critiques. Lundi, sur sa page Facebook, le député conservateur Denis Lebel s'est dit préoccupé par ce déversement. Denis Coderre n'a pas apprécié le commentaire du ministre. Il a dit « J'espère que M. Lebel ne fera pas de la politique avec ça. S'il bloque ça, est-ce que ça veut dire qu'il va bloquer toutes les municipalités qui demandent à Environnement Canada de faire des travaux ?» Montréal assure que les villes situées en aval n'ont pas à craindre pour leur eau potable. À Québec, on ne s'attend pas à subir des conséquences néfastes du déversement. Selon François Proulx, le directeur de la division de la qualité de l'eau à la ville de Québec, les matières indésirables seront en grande partie décantées à la hauteur du lac Saint-Pierre. La ville entend néanmoins augmenter le nombre de tests pour mesurer la qualité de l'eau dans les jours suivant le déversement. Alors, crainte et fébrilité pour un accord historique. On parle de ce partenariat transpacifique qu'on appelle déjà TPT. Quelques questions au sujet de ce partenariat. Quels sont les pays impliqués? Le Brunei, le Chili, la Nouvelle-Zélande et Singapour ont mis le projet sur la table il y a plusieurs années. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Japon, le Vietnam, l'Australie, le Pérou et la Malaisie font grimper à 12 le nombre de pays impliqués. Quelle est l'ampleur de cet accord de libre-échange? Eh bien, il s'agit de la plus grande zone de libre-échange dans le monde, qui comprend 4 continents et 40% de l'économie mondiale. C'est bien plus que l'Union européenne. Est-ce que, du coup, le PTP est plus important que l'UE, l'Union européenne? Vraiment pas, répond-on. L'Europe a ouvert ses frontières, facilitant ainsi la circulation des personnes et des marchandises d'un pays à l'autre. Le PTP réduit les barrières tarifaires dans une zone plus élargie. Alors, quels sont les effets? Eh bien, l'accord réduit ou élimine les tarifs douaniers sur une multitude de produits canadiens exportés à l'étranger, dont au Japon. Cela s'applique à la machinerie, en passant par le bœuf et le porc, ainsi que les produits forestiers. Il procure également un nouvel accès au marché canadien équivalent de 3,25% de la production de lait canadien aux pays signataires. Le PTP facilitera également l'arrivée en Amérique du Nord de pièces automobiles fabriquées à l'étranger. Alors pourquoi est-il si important? Eh bien, cela entraîne dans la sphère d'influence américaine des économies qui se développent rapidement. Mais alors, quel est le problème? Eh bien, il expose des travailleurs de la classe moyenne à une concurrence étrangère, où les coûts de production sont bas, notamment dans le secteur automobile. Il pourrait aussi avoir un impact négatif sur la profitabilité des fermes laitières, même si le gouvernement promet une aide de plusieurs milliards de dollars étalée sur 10 ans pour les aider. Ces décisions gouvernementales pourraient être renversées par des tribunaux spéciaux, comme dans l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, et devant l'Organisation mondiale du commerce, lorsque des compagnies contestent certaines lois adoptées par les gouvernements. Alors, est-ce que l'entente entre les 12 pays est une décision finale? Non. Les parties impliquées, comme le Canada, après la campagne électorale, devront ratifier l'entente. Un vote qui s'annonce difficile devrait avoir lieu au Congrès américain l'an prochain. Je vous disais qu'il en sera encore question dans les journaux régionaux, bien sûr, mais tout de suite, allons voir quelques mots de l'éditorial de Bernard Descoteaux qui se demande ce partenariat transpacifique, est-ce que c'est un nouvel Eldorado? Le Premier ministre Stephen Harper attendait depuis plusieurs semaines la conclusion ce dimanche du partenariat transpacifique, le PTP. Cela ne pouvait arriver à un meilleur moment pour lui. Après le NICAB, dit Descoteaux, le chef conservateur y trouve un autre enjeu autour duquel polariser le débat électoral. D'emblée, il y voit la promesse de milliers de nouveaux emplois et ses adversaires le spectre de milliers de futurs chômeurs. La réalité sera sans doute qu'il y aura de nouveaux emplois et de nouveaux chômeurs. Et je ne résiste pas à la grande joie de vous décrire la caricature de M. Garnotte ce matin dans Le Devoir. En légende, Harperette et le pot au lait. Alors, on voit Harperette, évidemment, qui a les traits de M. Harper, qui a son pot de lait au-dessus de la tête, le pot de lait sur lequel sont gravées les trois lettres PTP, comme dans cet accord transpacifique. Et là, elle a sa calculette à la main. Harperette, et elle est en train de penser. Alors on voit dans sa pensée, dans sa bulle de pensée, qu'il y a un petit cochon, il y a un petit agneau, il y a une petite vache. Et là, elle est en train joyeusement sur le chemin de faire ses petits calculs avec sa petite calculette. Harperette et le pot au lait.
Qui c'est qui est là dans son cœur? Qui c'est qui est comme qui quand on pleure? Moi qui ne suis que la sœur de mes heures. Je ne compte pas la pomme parmi. Qui c'est qui est comme
C'est extrait du dernier album de Catherine Major. La chanson s'appelle « La maison lumineuse », hein, c'est bien ça mon petit Mathieu. Alors dans quelques secondes, j'accueille mes premiers collaborateurs à l'émission « Les voix de service ». Et là, il y a un gros blanc et je vois Mathieu qui pédale dans la choucroute. Mais c'est pas grave, mon ami. Ça y est, on l'a. Allez, mets-moi quelques pom, pom, pom. Est-ce que c'est celle-là que tu me mets ? Oui ! Tu peux même laisser les micros ouverts, tiens. Pom, 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 pom. Mais oui,
c'est nouveau. C'est une nouveauté. Nous faisons notre propre musique.
Bonjour, mes amis.
Bonjour,
Michel, Audet et André tiennent fidèlement là le mardi. Ben quoi que fidèlement, Michel va nous abandonner pendant quelques semaines.
Oui, c'est mes vacances d'été que je décale.
Absolument.
Moi, comme les saisons se décalent.
Ah
moi,
ben,
et moi
voilà.
Aussi.
Et ben, écoute,
on était content qu'il soit pas en vacances cet été parce qu'on était tous absents. Là,
ben hein. Oui, mais regardez, ça va me permettre de pouvoir lancer une petite annonce sur nos ennuis parce que vous savez qu'à cette émission, les voix de service, plus on est de voix, plus il y a de collaborateurs qui viennent à cette émission et plus je suis contente, plus il y a de papiers qui sont... Et là, on est un petit peu en manque de ressources humaines. Alors, je lance donc cet avis, si vous connaissez, si vous-même qui nous écoutez, ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui peut-être aurait envie de faire de la radio. Vous savez que, bon, ici, les collaborateurs sont tous bénévoles. Je ne peux pas vous le cacher. On ne le cache d'ailleurs absolument pas. Vous pouvez prendre contact avec nous via notre site internet, qui est le www.vusezvoix.com. Et vous pouvez nous donner vos coordonnées, nom, numéro de téléphone et il nous fera plaisir de vous rappeler et de vous intégrer, si c'est possible, aux équipes déjà existantes.
Il faut dire que c'est très agréable comme activité. Hein, c'est très agréable. On a rempli
ça. C'est vraiment plaisant.
J'ai cru que vous alliez dire, mais faites pas ça. C'était pas vraiment
plaisant.
Pour ce qu'on est payé, on le fait vraiment pour le plaisir.
Oui,
c'est pour le plaisir qu'on le fait. Là,
bon.
C'est vraiment
alors voilà, donc j'ai lancé ma petite annonce que je lancerai cette invitation assez régulièrement à l'émission parce que voyez-vous entre autres c'est pour ne pas que comment André et moi-même on se retrouve trop seuls parce que vous allez être partis quand même 4 semaines.
Mais oui.
En Espagne.
Vers l'Espagne.
Ah,
tout à fait.
Vers l'Espagne.
Ah. Mmh.
Parce qu'il y va, il y a de locomotion assez sympa.
Oui parce
ah,
qu'en
plus. Comment ça en vélo?
Non c'est qu'en plus je fais la traversée. La traversée de l'océan.
Ah, OK.
Je parle d'Espagne. Non, je parle d'Espagne en bateau pour me rendre en Floride.
Ah, OK.
C'est le changement de saison pour les bateaux à cette époque-ci. Donc, les bateaux qui sont en Europe s'en vont vers les Caraïbes.
Ah,
oui. Et au mois de mai ou quelque chose comme ça, c'est l'inverse. Les bateaux des Caraïbes s'en vont en Europe.
Alors, vous comprenez que Michel Audet est un passionné de voyage.
Ah oui,
et c'est pour cela qu'il vient tous les mardis nous parler de voyage. Et aujourd'hui, alors, vous nous amenez où?
Aujourd'hui, je vais vous parler entre autres choses. Vous savez que les températures changent, on en sait quelque chose. Qu'en est-il des conséquences pour les vignobles et les vignerons?
C'est l'actualité, bien sûr.
Oui, oui, oui.
Saison.
Ben, vous allez voir qu'il y a des changements assez importants qui se produisent.
Mais chez nous ou...
En Europe et même
en
chez
Europe
nous.
En Europe et même chez nous, d'accord.
C'est ça, de façon générale.
D'accord.
De façon générale. Alors, on se questionne sur les changements climatiques. Et est-ce que c'est un phénomène récent de se questionner sur les changements climatiques? Est-ce que c'est un phénomène... Mmh. On a l'impression que c'est récemment qu'on s'est... Ah, vous allez voir, pas nécessairement. Et complètement dans un autre domaine, les baleines.
Oh,
ceux
j'adore.
Qui ont été voir les baleines, qui ont eu l'occasion... Vous savez, les sauts, c'est spectaculaire.
Oui,
hein?
oui,
très spectaculaire quand vous avez l'occasion de les voir.
Oui. Là, quand elles montent, on nous voit la gueule, quand elles montent...
Oui, c'est ça. Et quel est le but, quelle est la raison de ces sauts?
Mais oui.
Ben, vous allez le découvrir avec moi.
Ah! Oui, puis là, surtout que parfois elles volent, puis parfois elles ne volent pas.
Oui, c'est ça.
On a l'air
fin
quand elles ne volent pas. Puis quand on a payé, je ne sais pas combien.
Ou même qu'on ne les voit pas du tout.
Ou qu'on ne les voit pas du tout, exactement.
C'est ce qui m'est arrivé cet été.
André, vous allez nous amener où?
Moi, je vais vous amener, je ne vais peut-être pas vous amener justement quelque part. C'est parce que c'est un article du Monde que j'ai trouvé tout à fait intéressant et qui concerne particulièrement une grande partie de notre auditoire. C'est un article qui s'intitule « Le Népal qui envisage de restreindre l'accès à l'Everest ».
Ah oui.
Alors ça, c'est
oui,
toute une source de questionnement, d'informations à véhiculer. Je vais vous parler, je vais pas vous parler des baleines, on va rester dans l'eau quand même, mais je vais vous parler d'un animal qui a priori est pas très sympa. Si je vous dis pieuvre, est-ce que ça vous... Hey, je vous vois pas sourire ni l'un ni l'autre.
Non. Je sais pas si exactement. Ça me tente à cul. Bon, allez,
ah, ben vous allez entendre.
Fallait que je la fasse.
D'accord. Ben, vous allez voir ce qui leur arrive au tentacule. Donc, les pieuvres. Et puis aussi, un article vraiment absolument passionnant. Le business des zéro day. Est-ce que vous savez ce que c'est, les zéro day?
Non.
Zéro, Z-E-R-O, D-A-Y.
Non, qu'est-ce que c'est?
Ce sont les failles inconnues des fabricants de logiciels.
Oh.
C'est tout un business. Vous allez voir ça.
Ils vont se battre. Alors, qui commence?
Bon, alors j'y vais. Donc,
je vous ai parlé de
cet article, oui. Donc extrait du Monde du 30 septembre. Et vous vous souvenez là de cette avalanche qui est arrivée, qui a été déclenchée après un tremblement de terre en avril au Népal?
Oui. Hein? Oui, oui.
Ça a provoqué quand même la mort de 18 personnes, oui. Vous vous souvenez? Et c'était au camp de base de l'Everest. Et entre autres, ce qui a causé une partie des problèmes plus que n'importe quoi, ce sont les 16 Sherpas qui sont décédés dans cet événement. Mm-hmm. Alors, bon, la suite de cet événement a fait que le gouvernement népalais vient de rendre publique une proposition qui dit que les personnes handicapées, trop âgées ou trop inexpérimentées, ne pourront sans doute plus gravir l'Everest. Ah. Le Népal étudie en effet la possibilité d'octroyer les permis, parce qu'on donne des permis pour monter en haut de l'Everest, et d'ailleurs pas seulement l'Everest, hein, tous les pics du Népal. Oui. Donc le Népal étudie la possibilité d'octroyer des permis aux personnes qui pourront prouver leurs bonnes conditions physiques et qui ont déjà escaladé des sommets d'une altitude supérieure à 6500 mètres.
Oui, parce que là, je ne comprends pas. En quoi les personnes handicapées, c'est quoi le rapport avec l'accident qui avait eu l'avalanche et les personnes handicapées? Pourquoi tout d'un coup, ils veulent interdire ça?
Interdire ça parce qu'ils disent que le problème, par exemple, là, ils donnent des exemples, ils disent qu'il y a un Néo-Zélandais qui avait perdu ses deux jambes en 2006 et qui a été le premier double amputé à atteindre le sommet. Ou un aveugle américain qui accomplit le même exploit, ou un Japonais qui l'a fait à l'âge de 80 ans. Et donc, tous ces gens-là, ils ne l'ont fait qu'avec le support des Sherpas. Donc, si vous voulez, ils considèrent que met vraiment en danger la vie et des alpinistes et la vie des Sherpas, parce que c'est quelque chose de monter à 8848 mètres, je crois, quelque chose comme ça.
Étant dit, les Sherpas sont là aussi avec les personnes valides.
Oui, ils sont indispensables. Ils ne peuvent pas faire autrement, ça c'est absolument indispensable.
En tout cas, je trouve ça, encore une fois, un petit peu litigieux quand même, parce que si encore les gens valides n'avaient pas besoin des Sherpas pour monter, je peux comprendre. Mais là, les Sherpas, ils sont là pour porter quoi? Pour porter les valises de ceux qui se tapent l'Everest, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais pour porter aussi les gens qui, par exemple, ne peuvent pas.
Non, je comprends.
Alors, c'est justement pour parce que ce que dit le patron du département du tourisme du Népal, ce qu'il dit, il dit « Nous ne pensons pas que nous devrions accorder des permis à des personnes qui ne peuvent pas voir ou marcher ou qui n'ont pas de bras. Escalader l'Everest, c'est quand même 8848 mètres, n'est pas une plaisanterie, a-t-il souligné ?» Ce n'est pas une question de discrimination. Comment voulez-vous faire de l'escalade sans jambes? Quelqu'un va devoir vous porter.
Ben oui.
Et ça. Donc, si vous voulez, là...
Non, je comprends.
Bon.
En sachant que c'est physiquement très, très dur. Difficile.
C'est ça. Bon, alors donc, la suggestion, elle a été accueillie de différentes façons, avec réticence par certains. Comme il y a une alpiniste qui s'appelle Elisabeth Allais qui la qualifie d'injustifiée. Mais quand même, il y a un plus grand nombre de personnes qui approuvent l'idée, et notamment la première femme qui a gravi l'Everest en 1975. Elle avait d'ailleurs, justement à cette époque-là, en 1975, il n'y avait pas beaucoup de gens qui gravissaient l'Everest. Elle disait « Autoriser un large nombre d'alpinistes est un risque à la fois pour l'environnement mais aussi pour les alpinistes eux-mêmes.
Oui, il ne faut pas oublier que c'est devenu une poubelle, hein, l'Everest.
Ah, bah,
c'est
effarant.
Oui. Ah oui, pour, ah, pour l'environnement, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de redoutable. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe après cette proposition qui a été faite par le gouvernement népalais, le président de l'association, il assure que des restrictions donc, qui ont été proposées par le gouvernement, elles ont déjà été évoquées dans le passé, mais elles ont été abandonnées à cause de la pression des organisations des droits de l'homme et des ambassades étrangères. Mm-hmm. Bon, il a dit, lui, que les dispositions sont prises pour s'aligner sur la Chine, qui interdit déjà l'ascension de l'Everest par son versant nord aux personnes handicapées ou âgées de moins de 16 ans ou de plus de 75 ans. Alors, bon, il faut savoir quand même que chaque année, l'Everest accueille des milliers d'alpinistes. Et les dernières années, il y a vraiment un afflux de personnes inexpérimentées, mal équipées, qui sont dépendantes de leur guide et qui sont surtout incapables de venir en aide aux autres alpinistes en cas de problème.
Oui, ça, c'est ça. Je pense que c'est la chose la plus importante. Mais voilà. Souligner ici.
Ça, c'est vrai.
C'est une entraide. Monter l'Everest, c'est une entraide.
Mais l'alpiniste, en général, l'alpinisme, en général, c'est une entraide.
Ben oui,
hein.
C'est ça. Voilà.
Et dans les conditions qui doivent être celles qui sont dans l'Everest, plus que jamais. Bon, il dit aussi qu'il y a une série d'accidents majeurs ces dernières années qui avaient déjà poussé les autorités népalaises à prendre des mesures, notamment pour assurer de meilleures conditions de travail aux Sherpas.
Je pense qu'on peut dire que l'alpinisme, la montée de l'Everest, c'est devenu une business. Hein?
Oh, oui. Absolument, c'est devenu une business. Absolument, ah, oui. C'est incroyable. Aussi. Oui, c'est une mode, mais c'est aussi devenu vraiment une business. Et même dans les différents articles que j'ai lus, ils disent une usine Afrique. C'est pas moi qui le dis. Hein?
Ah oui, non, mais ça, moi, je le crois volontiers. Oui.
C'est absolument, c'est vrai, parce que, par exemple, il y a un alpiniste qui a l'air très connu, qui s'appelle Didier Court, qui dit qu'en 1986, il a fait l'ascension de l'Everest et il n'y avait qu'une expédition cette année-là. Maintenant, en moyenne, au printemps, il y a 35 expéditions qui sont prévues. Et à l'automne, il y en a déjà pour cette année 32 qui étaient prévues. Donc, ça fait quand même...
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est beaucoup trop.
Ce qui est énorme, c'est que ça coûte extrêmement cher.
Oui, hein.
Je
ne
sais pas si vous imaginez... Mais l'expédition dans l'Himalaya, en moyenne, ça revient à 50 000 euros par personne. Mais ce qu'il y a, puis quand on parlait de business, là, Michel, vous parliez de ça, et il explique et il dit qu'il y a quand même une bonne partie du prix de l'expédition qui sert à obtenir l'autorisation au sommet dont on parlait tout à l'heure, qui est obligatoire hein, pour tout étranger et pour tous les sommets du Népal. Mais ce qui se passe, c'est que les Sherpas, qui finalement sont absolument essentiels, je dirais vitales au sens propre du mot...
Hein, ils sont sous-payés, non ?
Ils sont complètement sous-payés. Oui. Imaginez que l'article, je le mets entre guillemets, ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est l'administration à Katmandou.
Ça, c'est clair.
Ils ne reversent que 5% à la région Sherpa. En gros, 95% des royalties, donc les autorisations au sommet, vont vers les fonctionnaires de l'État.
Ça ne changera jamais. Hein? Et comme dirait l'autre, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein?
Exactement.
Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est monter l'Everest, il y a un film actuellement qui s'appelle Everest, en IMAX 3D.
Ah oui, hein?
Vous allez voir qu'est-ce que ça prend comme forme pour monter l'Everest.
Ah oui, c'est hallucinant.
Effarant.
Il continue. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour vous donner des informations?
Très peu, André, parce qu'on a déjà dépassé.
Le gouvernement a prévu de doubler le nombre de cordes, mais... pour améliorer supposément les conditions de sécurité, c'est juste pour faire plus d'argent parce qu'à ce moment-là, ils feront plus d'expéditions.
Ben oui, c'est sûr.
C'est triste.
C'est certain. Merci beaucoup, André. On va prendre quelques secondes et je vais me tourner vers mon ami Michel Audet.
Yeah.
Alors voilà, l'avion a décollé. Michel oui. Audet, vous nous amenez où?
Je vous amène dans les vignobles, un peu partout dans le monde.
Hey.
C'est tiré de l'article de Karine Duplessis-Piché, qui était dans la presse oui. du 3 octobre. Les experts en climat nous disent que oui. la température pourrait augmenter de 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme pour la planète.
4 maintenant, parce qu'on parlait de 2.
La fin de la planète, c'est 4 degrés. Oui, c'est ça. Donc, vous imaginez ce qui peut arriver pour les régions viticoles. Hein?
Oui.
C'est en 1947, on a vendangé le 12 septembre. C'était une année précoce à ce mm-hmm. moment-là. Aujourd'hui, lors d'une année précoce, on vendange le 12 août. Donc, il y a un déplacement important. Hein? Et il n'y a pas, seulement les dates des vendanges qui ont changé. Les vins aussi. Ils contiennent plus d'alcool et ils perdent aussi en acidité.
Oui, parce qu'ils sont plus sucrés.
Ouais. Oui. Alors, le phénomène est tel que des chercheurs du monde entier tentent de mitiger les effets des changements climatiques sur les vignes. Les régions viticoles telles qu'on les connaît actuellement, aujourd'hui, vont être différentes. Et ça, okay. on en est certain. La limite climatique de la vigne a tendance à monter vers le nord, pour l'hémisphère nord, hein, et à descendre vers le sud, pour l'hémisphère sud.
Mm-hmm.
Alors, un spécialiste de l'Institut français de la vigne et du vin explique qu'une hausse de 1 degré Celsius, c'est pas beaucoup, ça, 1 degré Celsius, hein, mais ça équivaut à un déplacement d'environ 180 kilomètres. Ou vers le nord, ou vers le sud, dépendant des saisons. Donc, les régions qui sont connues pour leur blanc, comme la Loire, l'Allemagne,
oui,
en
oui,
particulier,
bien sûr, oui.
pourraient bientôt se consacrer davantage à la production de vin rouge.
Ah, ben
vous
oui,
voyez
ah.
les changements. Hein? Mm-hmm. Donc, les régions viticoles situées dans des zones plus fraîches,
oui.
La Champagne, la Bourgogne, Colombie-Britannique aussi,
oui.
qui est producteur de vin,
la
Nouvelle-Zélande aussi, ils vont être favorisés par la hausse des températures. Alors, si autrefois, le raisin manquait parfois de soleil et de chaleur pour arriver à la maturité, mm-hmm. à pleine maturité, ben, c'est plus le cas aujourd'hui.
Il va manquer de fraîcheur.
Et pendant ce temps-là, les régions plus chaudes sont menacées. La hausse du mercure entraîne des sécheresses intenses, vraiment importantes, et les cépages qui poussaient sans peine arrivent maintenant à maturité trop vite, trop rapidement. Alors, les experts surveillent de près les vignobles autour de la Méditerranée, comme le Roussillon,
ben oui.
particulièrement la Provence, l'Afrique du Nord. Alors, certaines régions de la Californie, de l'Argentine, de l'Australie arrivent encore à s'adapter grâce à une bonne irrigation. Bien, on a parlé, par exemple, de la Californie. Qu'est-ce que ça représentait en termes de pompage d'eau?
Ouais.
C'est énorme. Or, si l'eau vient à manquer... ce qui est en train de se produire en Californie avec les sécheresses intenses. Hein? Alors, si l'eau vient à manquer, les scientifiques sont clairs. Ces vignobles-là vont être rayés de la carte.
Mais attendez. Moi, alors là, je voudrais savoir, est-ce que les vignerons à l'heure actuelle qui sont conscients du danger, qu'est-ce qu'ils font pour se protéger de cette modification climatique? Ils ne sont pas
restés les bras croisés. Hein? Ils protègent leur grappe du soleil en gardant plus de feuilles sur les plantes. Et puis, ils enlèvent l'herbe entre les plants parce que les plantes, ça absorbe de l'eau, hein, évidemment.
Oui, oui,
alors,
oui.
certains vignobles récoltent même pendant la nuit parce que les raisins ne sont pas chauffés par le soleil et pour conserver l'acidité des fruits. Sauf que ces solutions, bientôt, vont être insuffisantes. Et ça, c'est des chercheurs qui nous le disent. Est-ce qu'on pourra, en 2050, faire le même style de vin au même endroit? Ben, à Bordeaux, la hausse des températures a déjà transformé les vins rouges. Depuis 50 ans, la proportion de Merlot a progressivement diminué dans les assemblages au profit du Cabernet Sauvignon.
Mmh.
Et parce que c'est un cépage qui s'adapte mieux. Il a besoin de plus de chaleur pour mourir. Le Merlot, lui, est de plus en plus sucré. Donc, vous voyez les transformations qui se produisent.
Et
les vignerons renouent aussi avec d'anciens cépages. En Champagne, pour vous donner un exemple, une variété qui était jugée trop acidulée, je voulais que j'en nomme, ça s'appelle l'Arbane. Ça pourrait bientôt reprendre sa place.
Ah, mais bon, j'espère que le champagne, ça ne va pas disparaître. Hein?
Non, il sert bien.
Surtout pas les bulles.
Surtout pas. Plusieurs chercheurs s'interrogent aussi sur l'avenir des vins de Bourgogne. La région française, on le sait, produit des bouteilles les plus chères du monde. Et c'est le fruit d'un savoir-faire qui est élaboré depuis le 14e siècle, lorsque les moines ont choisi de privilégier la culture du pinot noir à ce moment-là. Alors, au lieu d'être léger, élégant et fin, les pinots noirs de Bourgogne seront massifs, concentrés, comme ceux produits dans les régions plus chaudes.
Moi, je les aime comme ça, alors ça ne me dérange pas.
Donc, le Syrah pourrait devenir le cépage vedette de la Bourgogne. Mais encore faut-il que les vignerons acceptent de rompre avec des siècles de tradition.
Exactement. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Dites-nous
le Québec. Ah oui, le Québec est sur la carte aussi. Hein? Pendant que les vignerons européens s'interrogent sur les effets du réchauffement de la planète sur leur vie, ceux du Québec, eux autres, se réjouissent. Vous en doutez, hein? La météo n'a jamais été aussi clémente pour la culture de la vigne.
Ben oui.
Et si bien que certains experts prédisent que la province produira de grands vins à base de pinot noir d'ici 20 ans. Et le constat d'un climatologue est clair. D'ici 2050, le climat du Québec sera idéal pour la culture de variétés européennes. En particulier, c'est là où ils sont principalement, la région de la Montérégie. Alors, depuis le début...
Défendons l'Estrie.
Les
premiers vignobles, dont l'Orpailleur, entre autres.
Ben voilà, exactement.
Ils viennent de cette région-là. Ils ont eu du courage à ce moment-là.
L'Orpailleur, d'ailleurs, accessible. Hein. Je viens de lire ça ici dans le baladeur. Si vous voulez visiter les caves et tout ça, c'est une...
C'est très intéressant à faire.
Et c'est accessible pour les personnes handicapées.
C'est un pionnier. C'est bon à savoir. L'Orpailleur, c'est vraiment un pionnier.
Exactement.
Donc, ça remonte à il y a 30 ans. La saison viticole s'est allongée d'une vingtaine de jours au Québec. Je parle toujours du Québec. Les raisins ont plus de temps pour arriver à maturité avant les gels de l'automne. Les fruits sont moins acides, et ce qui rend les vins plus agréables en bouche. Et vous savez qu'à certains moments, lorsque vous visitez, par exemple, l'Orpailleur, ils vont faire savoir que lorsque des gels prématurés, j'avais été étonné lorsque j'ai visité, ils sont obligés de louer des hélicoptères qui passent au-dessus des vignobles pour faire descendre la température.
En Californie aussi, il y a des réacteurs d'avion qui font des...
Et ça va aller en s'accélérant au cours des prochaines décennies. Ouais. On parle de 2 à 3 semaines de plus sans gel.
Ah oui, en effet.
Tout à fait. Alors, les cépages européens, comme le pinot noir, le chardonnay, le gamay, ils ont besoin de plus de chaleur et de journées sans gel pour mûrir. Bon, c'est pourquoi ils ne représentent qu'une fraction du vignoble québécois. Mais les producteurs ont toujours privilégié les variétés hybrides, parce que c'est des variétés qui résistent mieux au froid et surtout qui mûrissent plus rapidement. Alors, le climatologue nous dit... Si j'étais vigneron, je parle toujours du Québec, je commencerais à prendre un certain pourcentage de ma terre pour développer une expertise avec les vignes européennes. Et le potentiel sera intéressant dans une vingtaine d'années.
Oui.
À ceux qui prévoient, c'est intéressant parce que la vigne, avant de devenir à maturité, ça prend quand même un certain nombre d'années. Donc, c'est une question de prévision. Il croit aussi que les vins seront favorisés par la hausse des températures. Mais il n'y a pas des nuances. Parce que, selon lui, les hivers resteront une menace pour la vigne. Il y a un déplacement des saisons, je pense qu'on s'en rend compte maintenant, mais il va toujours demeurer quand même du gel.
Oui.
Et parfois du gel entier.
J'espère bien, on aura toujours le vin de glace quand même.
Oui, c'est ça.
Ça devrait.
Tout à fait. Et en lisant l'article, j'ai été étonné de voir des endroits où on trouvait des vignes, particulièrement en Chine, qui, vous savez, qu'il est rendu le deuxième producteur au monde.
Ah ben oui, et qui en plus achète des vignobles français.
Exactement, oui, tout à fait.
Le Bordelais et la Bourgogne a été beaucoup racheté par des capitaux chinois.
Oui, exactement. Oui, tout à fait.
Alors voilà, écoutez, c'est fort intéressant tout ça. Est-ce que vous restez avec moi, mes amis, pour la seconde partie?
Oui.
oui, parce que oui, j'aime, moi, que ça oui. me ferait assez plaisir. Regardez, je vous dirai ça en seconde partie de cette émission-là, parce qu'on n'a même pas le temps pour des petites brèves.
Oh, mais mon Dieu, on a encore plein de choses à raconter.
Ben, je sais, mais dans la seconde partie, on reste ensemble avec André, Étienne et Michel Audet. Et je suis très heureuse de retrouver André, Étienne et Michel Audet qui vont m'accompagner encore pour la prochaine demi-heure. Alors, je vais les accueillir.
Eh bien, merci, on est bien contents. On a plein de choses.
Tiens, on va les ouvrir, les micros, tiens. Ouais. Voilà, comme ça, on va nous entendre. Pom, 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 pom. J'adore. Ma petite Andrée.
Oh, petite, d'accord.
Ma chère Andrée, c'est votre tour.
D'accord. Alors, moi, je vais vous parler donc des pieuvres, parce que ce sont des animaux incroyables.
La pieuvre en est que...
D'accord. Bon, alors, donc, elles sont capables de résoudre des labyrinthes. Elles savent ouvrir des bocaux. C'est formidable, hein?
Ah ben...
Elles savent utiliser des outils. Avec tous les tentacules qu'elles ont, évidemment, c'est normal.
Oui, c'est ça, excusez-moi.
D'accord.
J'ai l'image,
qui
est là en train d'essayer d'ouvrir. Ben, attends,
ah,
mais
regarde,
voilà.
D'accord.
Non, mais vous savez, ça me donne une idée. Il faudrait créer un engin qui aurait la forme d'une pieuvre avec des petits tentacules qui iraient s'installer
pour
sous
les
bocaux. Oui, pour les bocaux.
Eh ben, il y a les caoutchoucs qui marchent très bien.
Ben oui, c'est ça. Vous me dégonflez la balloune. Moi, je me suis dit, ça y est, je vais devenir riche. Eh ben non.
C'est raté.
Allez, je vous laisse aller.
On va trouver notre idée. Bon, donc c'est un mollusque, donc il n'y a ni coquille, ni os, et qui a juste une partie dure, c'est son bec, kératine. Son corps est mou, évidemment. Hein, vous aurez déjà une idée de ce à quoi ça ressemble. Elle est capable, imaginez bien, de se faufiler. Une pieuvre d'un mètre, elle est capable de se faufiler dans un tube de la taille d'une pièce de 2 dollars. Il faut le faire, hein, quand même. Hein. Alors, elle a plein de particularités. Son sang...
Attendez, elle est capable de se
faufiler... De se faufiler dans un tube qui a la taille d'une pièce de 2 dollars.
Mais pas une grosse,
une pieuvre de 1 mètre. Hein? Ça fait déjà... J'ai plein de choses à vous dire concernant leur spécificité.
Oh,
alors, ça, pensez à ça. Une pieuvre de 1 mètre... est capable de passer dans un tube de 2 dollars.
Oh,
je vais mettre là. Son sang, imaginez bien, son sang est complètement spécial. Il a un pigment qui est en cuivre vert bleu, et qu'on s'appelle hémocyanine, d'accord, et qui est, au lieu de l'hémoglobine à base de fer comme notre sang, il ne contient pas autant d'oxygène que notre hémoglobine. Mais par contre, il est plus efficace dans l'eau froide à cause de cette fameuse hémocyanine. Parce que comme elles ont une mauvaise circulation, elles sont rapidement à court d'énergie. Et c'est pour ça qu'elles ont développé une grande ingéniosité, qu'elles ont développé vraiment beaucoup de choses. Alors, elles se nourrissent de petits crabes, etc. Mais elles peuvent aussi s'attaquer aux petits requins. Alors imaginez comment elles font. Elles obstruent les branchies des petits requins pour les étouffer.
Ah oui.
Spécial hein, comme approche
elles
quand même.
Elles obstruent,
hein.
Elles obstruent
les branchies des requins pour les étouffer.
Oh là là.
Alors, la reproduction, il faut que je vous en parle parce que je ne reviens pas. Je suis allée sur Internet. Les pieuvres, ça vit 1 à 2 ans.
Pas plus.
Pas plus que ça.
Oh.
Et les pieuvres mâles, ils meurent après l'accouplement.
Oh.
Donc, il ne faut pas l'amour très souvent. Hein. Bon, ils ont au passage un de leurs tentacules qui est vraiment destiné à pénétrer la femelle.
Ah, il y en a une qui ne sert pas à ouvrir les bocaux.
Il y en a une qui ne sert pas à ouvrir les bocaux, qui sert juste à favoriser la reproduction. Bon, je vous parle des femelles.
Ouais.
Elles sont encore plus martyrs que les mâles.
Bon.
Elles couvent leurs œufs. Je vous signale qu'il y en a entre 20 000 et 500 000. Hein. Pendant un mois, elles ne quittent pas le nid pour chasser. Elles vont même manger... certains de leurs tentacules, parce qu'elles ne bougent pas. Si elles n'ont pas de nourriture, elles s'auto-mutilent et elles se mangent. Je vois la tête de Clotilde, d'accord. Et elles finissent même par mourir pendant que les œufs éclosent en bébé dans la taille d'une noix.
Ils ont des moyens de défense, les pieuvres?
Non, c'est vraiment pas une pauvre créature sans défense. La pieuvre, c'est fou. Parce que toutes les pieuvres injectent par leur bec un poison paralysant pour maîtriser leur proie.
Oh.
Toutes.
Ah
et
oui.
Plus la pieuvre est petite, plus son poison est mortel.
Est-ce que c'est le jet noir là qu'on voit dans Jules Verne?
Ça c'est autre chose. C'est un autre moyen de défense. Quand je vous dis que c'est un animal vraiment surprenant, ouais. Donc elles ont ça, elles paralysent leur proie.
Okay.
Toutes elles font ça. Et plus la pieuvre est petite, plus son poison est mortel. Une pieuvre de 10 cm, celle qu'on appelle à anneau bleu, elle peut tuer un homme.
Ah oui.
Autre moyen de défense pour leur transformation qui servent à éviter leur capture. Les cellules de leur peau changent de couleur. Elles peuvent ressembler simplement à un corail ou à une algue.
Comme les caméléons, là.
Exactement, comme les caméléons dans l'eau.
Okay.
Elles ont des minuscules muscles sous la peau qu'elles contractent pour changer leur texture. Non seulement leur couleur, mais aussi leur texture. Et elles vont même jusqu'à imiter un serpent de mer en contorsionnant leurs bras, comme le faisait Clotilde il n'y a pas longtemps, là. Je la vois tout à l'heure. Bon, l'encre, on en parlait tout à l'heure, Elle interfère aussi avec le sens de l'odorat pour localiser, dont se servent la plupart des requins pour localiser leur proie. Donc l'encre, elle sert non seulement à les cacher, mais aussi en nuisant à l'odorat des autres poissons, des autres poissons. Bon, ils disent que par contre, comme les pieuvres, elles n'ont pas un cerveau central. Mmh. Elles ne savent pas très bien où sont leurs tentacules dans leur corps. Quand elles bougent dans l'eau, elles ne savent pas très bien. Mais elles peuvent se défaire d'un tentacule, comme les lézards.
Okay.
Vous savez, on attrape des lézards, la queue nous reste dans les doigts.
Ça repousse.
Elles sont capables, ça repousse aussi après. Donc j'ai essayé de vous dire tout ce que je trouvais le plus intéressant, mais il y a encore plein de choses.
C'est vraiment sympa, la pieuvre.
Ouais.
J'en sais beaucoup plus maintenant.
Du coup, maintenant, ça devient un animal sympa parce que plein de spécificités.
Enfin bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est affectueux, cette petite bête-là.
On n'a pas tellement envie d'être amis avec elle. Des fois...
Alors Michel, on va où, on fait quoi?
Bon, réchauffement climatique, on en parle beaucoup.
Mais on n'en parle pas assez.
Un aspect différent dans ceci, c'est depuis quand on parle de ça, des changements climatiques? Alors, l'article, c'était « Qui fait la pluie et le beau temps? » C'est tiré des cahiers « Science et vie ». Et c'est par Philippe Testard-Vaillant. Tout le monde sait que l'effet de serre qui climatise naturellement la Terre, c'est emballé. On dit tout le monde sait, il y a un je ne ferai pas de remarques là-dessus. Et évidemment, ça incombe pour beaucoup aux quantités incroyables de CO2 qu'on déverse dans l'atmosphère depuis 150 ans, ça, on le sait. Mais depuis quand les hommes ont-ils compris que leurs activités pouvaient avoir des effets positifs ou négatifs sur le climat? Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette prise de conscience, ça ne date pas d'hier, Contrairement à une idée reçue, notre époque n'est pas la première à réfléchir aux conséquences environnementales de l'agir humain.
Surprise, surprise.
Alors, on remonte un peu dans le temps. Oui. De fait, cette préoccupation se manifeste vers la fin du 3e millénaire avant notre ère. On trouve ça dans un livre que vous connaissez bien qui s'appelle « L'épopée de Gilgamesh ».
Personne ne connaît.
Vers la fin du 3e siècle. L'important, c'est de retenir l'époque. Ça constitue l'un des plus anciens textes de l'humanité. Oui. Et pour avoir observé l'aridification de la Mésopotamie, après l'abattage des arbres dans la région, les auteurs savaient que la déforestation peut entraîner une baisse des précipitations. Déjà. Après, on s'en va chez les Grecs. Okay. Les Grecs, on en parle partout et de tout. Et même Platon attribue la déforestation catastrophique d'une région, l'Attique, qui compare au squelette d'un corps décharné par la maladie. C'est une belle image, Mais Platon ne semble pas être effleuré par l'idée que l'homme, à force de couper de grands arbres, a dénudé le sol et en a favorisé l'érosion par des phénomènes naturels.
Naturels, oui.
En revanche, il y avait un disciple que je ne vous nommerai pas, qui donne des exemples de changements climatiques d'origine humaine. Il parle, entre autres choses, du drainage d'un lac en Thessalie qui a provoqué un refroidissement des températures et des gelées qui sévissent depuis ces travaux d'assèchement et qui ont entraîné la disparition de la vigne et de l'olivier qui prospéraient naguère dans la région. Vous voyez, déjà, on parlait de la vigne à l'époque.
Ah oui.
On va faire le lien avec ce qu'on disait précédemment.
Une préoccupation importante, la vigne.
Eh bien oui. Puis de même, en Macédoine, une campagne de défrichement en exposant le sol aux rayons du soleil à réchauffer le climat.
Ce questionnement-là, est-ce que ça continue à se poursuivre?
On y revient, entre autres choses, au Moyen Âge. C'est un savant allemand du 3e siècle qui avance l'idée que les hommes peuvent transformer le climat. Et l'origine de cette soudaine publicité, vous savez qu'est-ce que c'est?
Non.
C'est la découverte et la colonisation du Nouveau Monde. À ce moment-là, en particulier de l'Amérique du Nord par les Européens. Ces événements particuliers soulèvent une montagne d'interrogations à l'époque. Et ça va structurer la question des relations entre l'action humaine...
On va être obligé d'arrêter. Ils nous font le coup tous les ans. Je suis désolée. On va être obligé de sortir, de quitter les studios. C'est un exercice.
C'est pour le plan d'édifice au
complet. Je suis absolument désolée. Ça tombe sur vous, Michel. Oui, mais lorsque vous allez revenir, malheureusement,
on aura plus le temps de faire ça.
Michel, je vais vous souhaiter bonnes vacances.
Et puis à la semaine prochaine.
Voilà, mais ne vous inquiétez pas.
J'y reviendrai.
Il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est un exercice qui nous oblige tous les ans à descendre. Et voyez-vous comme quoi nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Nous sommes obligés d'interrompre cette émission et nous la reprendrons, bien évidemment, lorsque je vais remonter un petit peu plus tard. Merci beaucoup à vous deux.
Moi, je vous parlerai du business.
Je reviendrai.
Alors, à la semaine prochaine.
Canal M, une radio à ma mesure.
Chasse au trésor, pêche au cadeau, bougies soufflées, rideaux tirés, petite fille et gros gâteau, c'était la fête au temps passé. C'était au temps des ours en pluche, joli joyeux anniversaire. Mais un an de plus pour la puce. Mais aujourd'hui, mais pourquoi faire? Maintenant qu'il est urgent d'attendre, je me souviens quand j'étais grande et j'ai pas le temps d'avoir 30 ans. 30 ans déjà, l'heure d'être sage. 30 ans pourtant, c'est pas très tard. Faut ranger sa mémoire en cage, ouvrir des portes de nulle part. Moi, si j'ai peur et pas la place, c'est que ça fait mal à mes souvenirs. Happy birthday, le temps qui passe. Moins on est petit, mais plus c'est pire. Un jour ou l'autre, faut être adulte, pas moi. Je prends ça pour une insulte. Et j'ai pas le temps d'avoir 30 ans. 30 ans, c'est vrai, c'est pas possible. Et c'est beaucoup trop vieux pour moi. Hier, j'étais Billy the Kid. Et maintenant, 30 ans déjà. À quoi ça sert, vivre aux éclats, si c'est pour grandir à crédit? Tout ça pour vieillir de sang-froid. 30 ans déjà, j'ai rien compris. Mais je ne veux plus me laisser faire à coups de joyeux anniversaire. Et j'ai pas le temps d'avoir 30 ans. C'était pas drôle et pas grand chose. 30 ans passés, c'est pas assez pour vraiment voir le vide en rose. 30 ans, 30 ans, mais pourquoi faire? J'en avais 20, c'était pareil. Et v'là que demain s'appelle hier. 30 ans.
longtemps déjà, j'ai pas sommeil. D'après la pluie, v'là le bon temps. J'ai eu 30 ans, mais finalement, il était temps. C'est pas méchant. Il était temps d'avoir 30 ans.
Dessine un cœur pour la petite fleur qui porte un foulard vert, faut s'y faire. Bientôt l'hiver. Les chasseurs sont rentrés, une soupe à la perdrix, un collier d'étoiles, la nuit qui s'installe en plein après-midi, faut s'y faire. Faire un pool, on va prendre une bière à la santé des braves, faut s'y faire. Déjà l'hiver. Oh, ma blonde est en calvaire, ça la fait pas triper. Viens t'étendre un peu tout près du foyer, viens coller ma peau douce, faut s'y faire. Courbe les chines, sonne la cloche, sonne l'heure de la retraite. Quand le temps se chagrine, faut s'y faire. Vraiment l'hiver. Oh, combien de marées pour compter les pas de toi. La porte est ouverte et le froid qui mord nous réclame déjà. Faut s'y faire.
Canal M, une radio à ma mesure.
Et chaque pas plus vite, car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures, car le temps de l'amour c'est long et c'est court, ça dure un tout.
Canal M, une radio à ma mesure.
Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Et le soir au son du violon, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Évangeline, Évangeline. Les Anglais sont arrivés et dans l'église ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangélie.